France Info.
Elles viendront se décaler sur la région PACA.
Christine Peña, vous écoutez France Info. Il est tout juste 5 heures. Un sommet européen réuni en urgence à Bruxelles cette nuit. C'était après la reculade de Donald Trump sur le Groenland. Deux enquêtes distinctes sont ouvertes à Angers et Bordeaux après le décès de deux nourrissons ayant consommé des laits infantiles rappelés par les fabricants. Le gouvernement Le Cornu affronte ce matin deux nouvelles motions de censure à l'Assemblée, mais selon l'arithmétique parlementaire, avec peu de risques d'être renversé. Et le tennis avec le match de Corentin Moutet, seul français au troisième tour face au numéro 1 mondial Carlos Alcaraz. Aux internationaux d'Australie, le français en difficulté dans le premier set et on fait le point dans quelques minutes. Les relations transatlantiques au menu d'un Conseil européen extraordinaire qui s'est terminé dans la nuit à Bruxelles. Les 27 ont voulu réaffirmer leur unité et leur soutien au Danemark. Après que Donald Trump a affirmé son intention d'annexer le Groenland, il avait d'abord retiré dans un premier temps ses menaces douanières contre les pays européens qui s'opposaient à ses vues sur le Groenland. Des escalades saluées par les Européens qui restent quand même méfiants. À Bruxelles, pour France Info, Fabien Cazot.
Tout en se disant résolu à n'accepter aucune forme de coercition, qu'elle soit commerciale ou militaire, les Européens saluent la désescalade engagée avant-hier par Donald Trump après avoir brandi la menace de nouveaux droits de douane le week-end dernier. Appelant à une relation transatlantique la plus apaisée possible, ils ont réaffirmé cette nuit leur solidarité avec le Groenland et le Danemark, invoquant le droit international et se montrant méfiant à l'image du président du Conseil européen, Antonio Costa, sur le nouveau Conseil de paix fondé hier par le président américain.
Nous avons de sérieux doutes sur un certain nombre d'éléments que contient la charte de ce Conseil de paix, concernant son champ d'action, sa gouvernance et sa compatibilité avec la Charte des Nations Unies.
La vigilance reste de mise, estiment plusieurs responsables européens, encore échaudés par les dernières menaces de Donald Trump contre ceux qui s'opposeraient à ses volontés. L'Union européenne dit malgré tout vouloir continuer à travailler de concert avec les États-Unis sur les grands dossiers internationaux, en particulier le Groenland et la région arctique, où les Européens comptent renforcer leur présence et leurs investissements.
Fabien Cazot à Bruxelles pour France Info. Il est 5h02, des laits infantiles, des marques Picot, Gigos et Nidal, fabriqués par Nestlé et Lactalis, retirés des rayons. Comme l'a dévoilé cette semaine la cellule investigation de Radio France, deux enquêtes ont été ouvertes après le décès de nourrissons ayant consommé des laits potentiellement contaminés par une toxine, par une substance qui peut provoquer nausées et vomissements, mais aussi des complications plus graves. Les enquêtes visent à déterminer justement si un lien direct peut être établi. Les explications de Marie Dupin.
Le parquet de Bordeaux a confirmé l'ouverture d'une enquête pénale à la suite du décès d'un nourrisson. Un bébé né le 25 décembre, il avait été nourri entre le 5 et le 7 janvier avec un lait infantile de la marque Gigos. Il est décédé le 8 janvier dans un hôpital de Pessac près de Bordeaux. Par ailleurs, le parquet d'Angers a ouvert une seconde enquête après le décès le 23 décembre d'une fillette de 27 jours également nourrie avec du lait de la marque Gigos. À ce stade, les ministères de l'Agriculture et de la Santé soulignent qu'aucun lien formel n'a été établi entre la consommation de ces poudres de lait et les décès. Cependant, selon nos informations, la France ne dispose d'aucun centre de référence capable de détecter la toxine incriminée dans les selles des nourrissons, ce qui rend impossible l'établissement d'un lien formel. Une situation d'autant plus préoccupante que les rappels de produits ont pris plusieurs semaines.
Marie Dupin de la cellule investigation de Radio France. Le gouvernement Le Cornu fait face à deux motions de censure ce matin, l'une déposée par le Rassemblement National, l'autre par la France Insoumise et les écologistes. Deux motions qui suivent l'utilisation de l'article 49.3 déclenché par le Premier ministre sur la partie recette du budget. Motion qui n'ont que peu de chances d'aboutir et donc peu de chances que le gouvernement soit renversé. Audrey Tison.
A priori, le compte n'y est pas. 288, c'est le nombre de députés qu'il faut réunir pour renverser un gouvernement. Alors, regardons les camps qui souhaitent la censure. La France insoumise, les écologistes et les communistes se sont associés pour déposer la même motion. Et leur texte sera voté aussi par le Rassemblement national et l'Union des droites. Quand on additionne, il manque 25 voix. Alors certes, il y a quelques élus du groupe indépendant Liotte ou non inscrits qui devraient aussi joindre leur voix, mais aussi quelques individualités chez les Républicains. Michel Barnier dit par exemple s'interroger sérieusement. Au PS aussi, le groupe s'attend à quelques dissidents qui ne respecteraient pas la consigne, ne pas censurer un gouvernement qui a fait beaucoup de concessions à la gauche. Bref, sur le papier, la censure n'est pas impossible, mais peu probable.
Audrey Tison du service politique de France Info. 5 hommes, dont 4 Colombiens, viennent d'être mis en examen et écroués, soupçonnés du meurtre d'un jeune homme en novembre dernier près de Lyon, mais aussi d'être en train de préparer un deuxième règlement de compte, soupçonnés d'agir pour un narcotrafiquant français de Lyon qui est actuellement détenu en Colombie. Les perquisitions ont permis de saisir des armes à feu, des munitions et des grenades. France Info, il est 5h06. Un pétrolier russe arraisonné par la marine française en Méditerranée, c'était hier après-midi. Le Grinch, en provenance de Russie, navire placé sous sanctions internationales, il appartiendrait, selon les autorités, à ce qu'on appelle la flotte fantôme conçue par Moscou pour contourner les sanctions sur le pétrole et continuer à financer la guerre en Ukraine. Ça n'est pas la première fois que les Occidentaux immobilisent ce genre de bateau. Est-ce que ça peut vraiment affaiblir le chef du Kremlin? Les éléments de réponse avec Isabelle Labéry.
Le pétrole transporté par ces navires sous pavillon de complaisance et vendu à l'Inde, à la Chine ou à la Turquie aurait rapporté à Moscou plus de 30 milliards d'euros sur un an, chiffre avancé par Emmanuel Macron. De quoi financer 30 à 40% de l'effort de guerre russe en Ukraine. L'Union européenne a donc commencé à inscrire ses bateaux sur sa liste de sanctions. Il y en a plus de 600 aujourd'hui. Ils n'ont pas le droit d'entrer dans les ports occidentaux et ne peuvent pas être assurés. Ça ne les empêche pas de naviguer, mais ça ralentit les livraisons et complique leurs manœuvres. Selon le think tank ukrainien KSE, ces sanctions ont fait perdre à Moscou entre 5 et 10 milliards de dollars l'an dernier, ce qui n'est pas suffisant. Si l'on veut vraiment tarir cette source de financement, disait hier Volodymyr Zelensky, il faut arrêter plus de navires, confisquer leurs marchandises. Le président ukrainien, lui, a choisi la manière forte. Kiev a déjà frappé 4 pétroliers l'an dernier.
Isabelle Labéry de la rédaction internationale de Radio France. Et à 5h07, le tennis avec l'Open d'Australie. Et en ce moment, le match entre Carlos Alcaraz et Corentin Moutet, match du 3e tour. Match que vous suivez pour France Info, Fabrice Abgral. Et c'est plutôt mal parti pour Corentin Moutet qui vient de perdre le premier set.
C'est vrai, c'est le dernier Français encore en lice à Melbourne et peut-être sûrement une élimination pour Corentin Moutet parce que après 56 minutes très précisément, large, très large domination de Carlos Alcaraz, il a remporté le numéro 1 mondial, le premier set sur le score sans appel de 6 jeux à 2 et dans la deuxième manche 3-0 en faveur de l'Espagnol. Il est au service Carlos Alcaraz pour confirmer le double break pour mener donc 4-0. Vous l'avez compris, il y a une classe d'écart entre Corentin Moutet, le 34e mondial et Carlos Alcaraz, et croyez-moi sur le court, Carlos Alcaraz est sans pitié pour Corentin Moutet, un Corentin Moutet dépassé par la cadence et le talent incroyable d'un Carlos Alcaraz en démonstration sur le court central, qui plus est, Carlos Alcaraz extrêmement déterminé à Melbourne. Il a fait de l'Open d'Australie sa priorité, il veut remporter son premier titre à Melbourne, le seul grand chelem manquant à son palmarès, donc il n'est pas là pour rigoler, croyez-moi Carlos Alcaraz, et il le montre sur le central. Corentin Moutet est réduit au rôle de figurant pour l'instant. Donc premier set remporté par Carlos Alcaraz, 6 jeux à 2, 3-0 pour l'Espagnol dans la deuxième manche, toujours au service pour confirmer le double break pour mener 4-0.
Fabrice Abgral, ça rigole pas, et surtout évidemment pour Corentin Moutet. Dans l'Euro de handball, la France craque face aux pays hôtes, le Danemark, les Bleus battus 32-29 pour leur entrée en lice dans le tour principal. Ils peuvent encore se qualifier pour les demi-finales en se relançant dès demain après-midi face au Portugal. Et le football, Lyon qualifié directement pour les huitièmes de finale de la Ligue Europa avec une victoire 1-0 à Berne chez les Young Boys. Avec 6 victoires en 4 matchs, les Lyonnais restent premiers de la phase de Ligue et Lille n'a pas pu obtenir le point qui lui aurait permis d'assurer sa place dans les barrages. Lille battue 2-1 à Vigo en Espagne. Tout de suite, la météo à 5h09 sur France Info avec Christine Peña qui nous amenait la pluie tout à l'heure. Ah ben vous rajoutez une couche de froid.
Mais oui, le froid qui revient petit à petit. Alors pas cet après-midi. Cet après-midi, ça sera un peu les mêmes températures qu'hier et qu'avant-hier d'ailleurs. C'est ce matin, on perd de 2 à 3 degrés. Alors il fait 6 degrés à Paris, un peu plus froid qu'hier. 6 degrés également à Clermont-Ferrand, à Orléans aussi. 5 degrés à Rouen, à Agen, à Montélimar, du côté de Lyon. 5 degrés, 4 à Lille. Un petit degré pour le sud-ouest au pied des Pyrénées pour Tarbes. 2 simplement à Nîmes. Ça sera la même température qu'à Mulhouse. Le plus froid, c'est pour Nancy et Strasbourg, de nouveau avec 0 degré ce matin.
Christine Peña, on se retrouve dans une vingtaine de minutes, juste avant 5h30 pour une carte météo complète.
France Info, le week-end.
Bonjour, c'est Adrien Beck. Je suis ravi de vous retrouver tous les matins, du vendredi au dimanche.
Sur tous les terrains.
Avec nos reporters.
Les décryptages de nos experts.
Le 8:30 France Info.
Les informer.
Pour tout savoir, tout comprendre, dès votre réveil.
Du vendredi au dimanche, le matin, c'est Adrien Beck sur France Info.
Il est 5h10, le collège de Bétharram va probablement bientôt fermer ses portes à la fin de l'année scolaire. La réaction dans un instant du porte-parole des victimes de Bétharram, Alain Esquer, invité de France Info.
France Info, 5h-6h, Jean-Christophe Martin.
Le collège de Bétharram va donc probablement bientôt fermer ses portes et c'est Pierre-Vincent Guéret, le président de la Fédération des organismes de gestion de l'enseignement catholique, qui l'annonce. Il annonce en tout cas que l'établissement doit déménager à quelques kilomètres. Fermeture justifiée d'après lui parce que le nom et les locaux de Bétharram sont définitivement marqués par l'affaire qui a éclaté il y a 2 ans. Plus de 200 plaintes d'anciens élèves pour des sévices physiques ou sexuels. La réaction du porte-parole des victimes de Bétharram, Alain Esquer.
L'établissement de Bétharram va fermer. Déjà avant le scandale, la situation financière de l'établissement était assez catastrophique. Vous imaginez bien que l'établissement va fermer faute de combattants, faute d'élèves, parce que aujourd'hui vous n'avez quasiment plus aucun interne. Et j'étais à la sortie de Bétharram tout à l'heure et je peux vous dire que il n'y a pas énormément d'élèves qui sortent de l'institution. J'en ai compté à peu près 80-100 élèves. À la grande époque, on était entre 600 et 800 élèves à Bétharram.
Donc ce grand bâtiment blanc qui surplombe le gaffe de Pau est déjà quasiment vide.
C'est ça. Et les locaux sont décrépits. Les syndicats enseignants ont été mis au courant déjà depuis plusieurs semaines de ce déménagement de l'institution vers l'établissement voisin d'Igon, qui est géré donc par l'OGEC. Et tout simplement, on voit que ce communiqué du SGEC, nommé par les évêques, Rome, il a précipité, en fait, le président, l'information, mais qui circulait déjà au niveau local, puisqu'il y avait aussi des informations qui avaient été apportées aux parents d'élèves. Donc, pensez donc que c'était qu'un secret de Polichinelle que Bétharram allait fermer définitivement ses portes. Parce que, à un moment, il y a un coût aussi de plus en plus important pour rénover les locaux et pour des inspections qui ont été assez dramatiques, d'ailleurs, ces derniers temps.
D'ailleurs, d'un mot, est-ce que vous savez ce que ça va devenir ?
Ah mais j'en sais rien. Ça aurait pu être un centre de formation contre les violences physiques et sexuelles. Mais enfin, moi je voudrais quand même revenir sur cette séquence où le SGEC intervient en nous expliquant que c'est Rome qui doit décider in fine. Ça suffit, Bétharram. On en a assez. C'est 250 viols, abus sexuels, abus physiques, 250 collectés par le collectif, donc bien plus. Beaucoup de souffrances. France. Et là, ça suffit. Il faut fermer cet établissement. On voit bien que la posture de la congrégation, ça a été une posture d'affrontement. On obtient les choses au forceps. Donc, cette structure doit définitivement fermer. Et elle va fermer, je vous l'affirme.
Et donc, on entend votre colère contre le secrétariat général de l'enseignement catholique, le SGEC, qui semble temporiser, d'après vous, que ce lieu ferme.
Mais ils n'ont aucune autorité sur Betarame. J'en avais parlé avec Philippe Delorme lui-même. Il m'avait dit « je ne peux rien faire contre Romain Clerc, le directeur de l'établissement. C'est congrégationniste. Mais c'est très grave pour notre pays. C'est-à-dire qu'avec nos impôts, nous payons des enseignants. Vous savez combien il y avait d'enfants à Betarame, des terminales S l'an dernier. Pour un prof de maths, il y avait 5 élèves. Quand est-ce qu'on va arrêter cette gabegie de Betarame? Betarame coûte énormément et ne donne pas, et ne remplit pas sa mission de service public. Donc il faut fermer cette structure au plus vite désormais.
Les deux rapporteurs de la commission d'enquête sur les violences en milieu scolaire, les députés Violette Spilbou et Paul Vanier, ont réagi à cette information. Ils parlent d'une victoire et d'une reconnaissance essentielle pour les victimes. Est-ce que vous dites aussi que si Betarame ferme, c'est une manière d'aider à tourner la page pour les victimes?
Mais bien sûr, enfin, ces murs sont des murs de violence où des crimes y ont été commis. Et qu'on ne me parle pas qu'il y a 50 ans. Non, il y avait un surveillant à Betarame qu'on a fait suspendre, licencier en 2024 et qui est actuellement en détention pour des actes pédocriminels. Donc qu'on ne nous explique pas qu'il y a 50 ans.
Il me reste deux questions. La première, est-ce que vous avez des avancées sur les indemnités, les réparations que pourraient fournir aux victimes les pères de Betarame?
Alors là, il y a des avancées, évidemment, puisqu'ils se sont engagés à indemniser les victimes d'abus sexuels, y compris de laïcs. Ça commence actuellement via le CRR. Mais au-delà, il y a un dossier qui va être jugé demain en CIVI, qui était mis en délibéré. Donc on saura si la CIVI se prononce justement pour les victimes d'abus sexuels dans les établissements catholiques. Donc c'est aussi une étape très importante à venir.
Alain Esquer, porte-parole des victimes de Betarame, il répondait sur France Info à Jules De Kiss. Il est 5h15, c'est le retour du froid ce week-end un peu partout en France. Mauvaise nouvelle pour les routes. Météo France prévoit du gel, peut-être de la neige sur les reliefs, alors que les départements finissent tout juste de réparer les dégâts de la grosse vague de froid du début du mois. Exemple pour France Info dans l'Aisne, avec ses 5500 km de route, c'est le deuxième département de France avec le plus de kilomètres de route par habitant. Marc Bertrand.
Christopher montre du doigt la chaussée de la Nationale juste à la sortie de la ville de Laon.
En fait, juste après le passage à niveau, là-bas, il y a un nid de poule qui n'est pas indiqué.
Le mécanicien a failli y laisser les pneus de son Audi.
Moi, je l'ai mangé avec ma voiture, j'ai eu de la chance, je suis passé à la limitation, donc ça a passé. Mais une personne derrière moi qui, lui, n'est pas passé à la limitation, pneu éclaté net et la jante pliée en deux.
Il faisait combien le trou?
Ouais, bon, 25 cm.
Son copain, Noah, est taxi sur les routes de l'Aisne.
Dès le dégel, ça a été un carnage pas possible, on a vu les gravillons sur la route. Des trous aussi, beaucoup. Maintenant, c'est plus possible à rouler sur les routes de l'Aisne.
Depuis deux semaines, les 200 agents des routes du département ne font que ça. Du nid de poule.
Depuis l'épisode neigeux, on n'arrête pas.
Nicolas et ses collègues en combinaison orange viennent de stopper leur camion devant un gros trou sur une route entre deux champs de betteraves.
Là, en profondeur, il fait 8-10 cm. Après un événement comme ça, on fait une tournée avec des bennettes pleines d'enrobés à froid. Dès qu'on constate un trou, on le remplit.
Il prend une grosse pelletée de bitume.
Là, on comble le fond du nid de poule, et puis après, on va le damer. Voilà, il y a un bon 50 kg d'enrobés, facilement.
En tout, le département a écoulé 200 tonnes d'enrobés en deux semaines. À 100 euros la tonne, ça fait cher les 4 jours de gel pour Thierry Fraise, le vice-président chargé des routes.
Alors, il n'y a pas un hiver où on n'y est pas confronté. Maintenant, c'est vraiment la différence entre le froid et le phénomène de redoux très brutal qu'on a eu 48 heures plus tard. Ça crée des nids de poules. On est dans une période en plus où on a les convois betteraviers en ce moment, des essieux à 44 tonnes qui passent fréquemment. Derrière, il va y avoir à peu près 1,5 million qui vont être mis dans les grosses réparations suite aux épisodes neigeux pour pouvoir garantir une circulation optimum.
Devant lui, les agents terminent de damer la rustine de bitume bien noir.
Ça tient, vous pouvez rouler dessus.
À la prochaine vague de froid, le département est prêt à fermer certaines routes aux poids lourds pour qu'il n'éclate pas encore plus le bitume.
Marc Bertrand sur les routes du département de l'Aisne pour France Info. Dans les prochaines minutes, le monde d'Élodie. Élodie Suigo qui reçoit ce matin le duo Lilywood and the Prick pour la sortie aujourd'hui de leur album Christina.
France Info, 5h-6h.
L'essentiel de l'actualité à 5h19, c'est avec Diane Ferchit. Bonjour Diane.
Bonjour à tous.
Et le premier titre de ce vendredi, une rencontre positive mais un dialogue pas simple.
Les mots de Volodymyr Zelensky pour qualifier sa discussion avec Donald Trump à Davos en Suisse en marge du Forum économique mondial. Le président ukrainien assure être parvenu à un accord sur les garanties de sécurité offertes par les États-Unis à l'Ukraine face à la Russie. Et une réunion entre Russes, Ukrainiens et Américains doit se tenir aujourd'hui à Abu Dhabi. Une deuxième enquête ouverte cette fois à Angers après la mort fin décembre d'un nourrisson ayant consommé du lait en poudre Nestlé, lait potentiellement contaminé par une toxine. Une autre enquête est en cours concernant la mort d'un nourrisson en janvier à Bordeaux. Il avait également bu du lait de la même marque mais aucun lien n'est établi pour l'heure. Elles seront soumises au vote des députés ce matin, deux motions de censure après l'utilisation du 49.3 par Sébastien Lecornu pour faire passer le volet recettes du budget, l'une déposée par le Rassemblement National, l'autre par la France Insoumise. Des motions qui ont peu de chances d'aboutir. 45 morts, c'est le bilan définitif de la catastrophe ferroviaire survenue dimanche soir dans le sud de l'Espagne, annonce des autorités espagnoles après que deux derniers corps ont été retrouvés. Ils ont pu être identifiés.
France Info.
À Minneapolis, aux États-Unis, les tensions restent si fortes entre la population et les services fédéraux de l'immigration que le vice-président américain, J.D. Vance, s'est déplacé en personne pour rencontrer des représentants de l'économie locale, mais aussi des officiers de police et des agents de la police de l'immigration, l'ICE. Cette visite peut-elle vraiment apaiser les citoyens révoltés par la mort de René Good? Tout dépend des points de vue. Le reportage d'un des correspondants de France Info aux États-Unis, à Minneapolis, Olivier Poujade.
Une salle de conférence à peine éclairée en banlieue de Minneapolis, J.D. Vance explique les raisons de son déplacement.
Faire descendre la température, réduire le chaos, mais surtout permettre aux autorités fédérales de faire respecter la loi.
Dans le champ des caméras, sur fond noir, encadré de deux 4x4 siglés ICE, le vice-président s'exprime devant une dizaine d'agents participant aux opérations.
Ce que j'ai appris ici, c'est que les gars derrière moi font de l'excellent boulot. Et franchement, beaucoup de médias racontent des mensonges sur leurs opérations. À cause de quelques agitateurs d'extrême gauche, ces agents ne peuvent pas travailler sans être harcelés ou insultés. C'est inacceptable.
Dehors, malgré une température de moins 20 degrés, Jake se joint à un petit groupe de manifestants.
Je ne vois pas où est cette criminalité dont ils disent qu'elle est présente partout ici. Je connais la ville par cœur et le seul crime que je vois, c'est celui du gouvernement fédéral qui entre chez les gens en défonçant la porte.
Chiffre invérifiable, le gouvernement parle de 10 000 immigrés illégaux déjà arrêtés et expulsés, rien qu'au Minnesota. Mélissa, elle, a de sérieux doutes sur le fait que la présence de J.D. Vance puisse apaiser les esprits.
Ce n'est pas un bon signe qu'il soit là. Il faut virer l'ICE de cette ville. C'est comme ça que les choses se calmeront. Les habitants ne provoquent pas ces troubles, ce sont les agents de l'ICE. Ce sont eux qui ne respectent pas la loi.
Ici, les tensions entre pouvoirs fédéraux et populations locales semblent se cristalliser. Une grève générale est annoncée aujourd'hui dans tout l'État pour protester contre les violences des agents de l'ICE.
Olivier Poujade à Minneapolis pour France Info. Et à 5h22, c'est l'heure du Monde d'Élodie avec Élodie Suigo et ses invités.
Bonjour Lilywood and the Prick.
Bonjour.
Bonjour Nili et bonjour Benjamin. Vous êtes deux sur le papier et sur la scène, mais vous ne formez qu'un quand on écoute vos chansons et ça fait déjà 20 ans que ça dure. C'est en 2006 que vous êtes rentrés dans nos vies sans effraction et plutôt en douceur. En tout cas avec une forme de légèreté et nuance, c'est certain. Et puis Robin Schulz est passé par là avec ce remix qui a mis tout le monde d'accord. Aujourd'hui, vous nous offrez votre nouvel album intitulé Christina, 11 titres qui nous font oublier que vous avez pris le temps de vous ressourcer. Cet album est aussi l'occasion de remonter sur scène avec une belle tournée qui commencera par Besançon le 5 mars prochain, que vous terminerez au Trianon de Paris les 27 et 28 novembre 2026. Christina, c'est plus qu'un album, c'est plus qu'un retour, c'est une quête de personnalité, c'est une quête qui aide finalement à combattre l'individualisme. Est-ce que c'est pas une quête de sens, cet album ?
Une quête de sens, c'est peut-être une quête pour nous de retrouver nos origines, nos influences, de se retrouver nous aussi tous les deux, peut-être de retrouver cette spontanéité qu'on a toujours eue, mais peut-être qu'on a perdu à un moment, et je pense que la vie est une quête de manière générale, donc... Oui, c'en est une.
Nili, la voix, elle a changé.
Ah, c'est vrai ?
Il y a un truc différent par rapport à d'habitude, comme si cette voix, vous la mettiez davantage, enfin, vous acceptiez davantage l'écrin qui était construit autour de cette voix.
Je pense que quand on chante, quand on est plus jeune, on a tendance à pas être totalement soi parce qu'on a envie d'incarner quelque chose, de se donner un certain genre. Et je pense que j'ai la chance d'avoir une super voix et qu'il fallait que j'arrête de rajouter des choses qui sont superflues, en fait, et juste que je chante. Donc là, je pense que j'y suis.
Pendant très longtemps, vous aviez un problème de légitimité. Vous ne sentiez pas légitime. Est-ce que ça va mieux aujourd'hui ?
Ouais, grave.
Ouais, un peu mieux quand même. Non, mais c'est normal de parfois se sentir illégitime parce que on voit tellement d'artistes incroyables qu'on se dit nous, mais est-ce qu'on est aussi bon que ça ? Est-ce qu'on mérite d'être là ? C'est normal. Après, le temps fait que oui, on est là, quoi. Donc vraiment, faut vraiment accepter que on a notre place ici.
Bon, en tout cas, que de chemin parcouru. Vous avez tous les deux grandi au fil du temps. Vous avez toujours pris le temps, d'ailleurs. Là, c'était important de prendre le temps de vous poser, de vous repositionner, de vous renourrir, entre guillemets, de reproposer autre chose.
Le temps, c'est vraiment quelque chose de très particulier parce que pour certains, c'est très long, pour d'autres, c'est très court. Je pense qu'il faut vraiment se dire que nous, on a voulu faire ce qui nous a plu et du coup, ça prend peut-être un peu de temps. Et c'est vrai que on y retournait souvent. Par moments, on se disait, c'est bon, on a terminé la chanson. Puis en fait, non, notre producteur ou même nos amis ou autres ont pu nous dire, c'est peut-être pas encore là, c'est peut-être pas encore fini pour vous. Donc terminer, aller plus loin, et c'est ce qu'on a fait.
Ouais. Nili, vous avez toujours été obsédée par la mort, je le précise, parce que je me suis posé la question quand j'ai commencé à écouter cet album, si elle en avait une petite référence dans une chanson,
bah,
il y a
toujours.
Blue Bass.
Bah, bien sûr, sinon c'est pas drôle.
On l'a bien,
ouais, c'est mon préféré, pas à cause du thème, mais je le trouve trop beau ce morceau, je le trouve hyper 80. Et puis un bon morceau triste quand même, c'est important dans un album, je trouve.
Qu'est-ce qui vous obsède toujours autant ?
Non mais je pense que c'est très humain de penser à ça. Et
c'est plus léger, j'ai l'impression quand même.
Bah, de toute façon, j'ai pas le choix. Je fais un travail sur moi comme beaucoup de gens et j'essaye plutôt que de penser à la fin, de penser à maintenant et de profiter de tout et de kiffer la vie.
L'amitié, Ben, c'est la base la plus solide de l'existence, entre guillemets, parce que vous chantez aussi l'amour, mais on sent que l'amitié, c'est quelque chose qui, entre vous, déjà, est assez indestructible.
Ouais, c'est très fragile l'amitié, je pense que ça s'entretient, comme tout d'ailleurs. Comme l'amour. Il peut y avoir de l'amour, de la fraternité dans l'amitié. Je pense que c'est quelque chose d'impalpable, mais qui se voit au quotidien, par des actes, par des façons de, même nous, de travailler ensemble. Mais c'est bien de faire un album qui parle d'amitié, je trouve, à un âge un peu plus avancé que finalement, parce que c'est à 20 ans qu'on crée nos relations amicales qui peuvent durer toute une vie. Et c'est maintenant qu'on en parle, donc je trouve ça cool.
Un mot sur la scène. Au tout départ, Nili, vous étiez en crise de larmes avant de monter sur scène, parce que vous aviez peur des autres. C'était un peu votre cas aussi, Ben. Aujourd'hui, vous en êtes où ?
Je crois qu'on a tous les deux vachement track toujours à monter sur scène, vraiment presque envie de vomir, mais c'est du bon track parce qu'on a hâte aussi. Et pour ma part, je sais que dès que je mets un pied sur scène, tout disparaît et je suis trop heureuse. L'endroit où je suis le mieux dans la vie, c'est sur scène.
C'est particulier la scène, c'est quand même à la fois très douloureux et à la fois tellement bon. On passe par plein d'émotions en très peu de temps. On doit en donner, on en reçoit. Donc il y a quand même quelque chose de très violent, je trouve, à faire de la scène, du spectacle vivant. Et en même temps, c'est quelque chose qui n'existe nulle part ailleurs, cette sensation-là. Ouais, c'est un peu schizophrène. Moi, je trouve que c'est un peu difficile à gérer parfois. Mais on y retourne, c'est assez addictif.
Merci beaucoup en tout cas Nili et Ben d'être passés dans le monde d'Élodie sur France Info. Merci Lilywood and the Prick, ça s'appelle Christina, 11 titres à découvrir. Et vous serez également en tournée dans toute la France à compter du 5 mars prochain. Vous serez à Besançon, puis à Metz, Toulouse le 11 mars, Biarritz, Tourcoing. Vous terminerez donc par le Trianon de Paris les 27 et 28 novembre 2026. Merci beaucoup.
Merci. Merci.
Le monde d'Élodie à retrouver sur France.
franceinfo.fr. Dans un instant, un nouveau journal et d'abord la météo.
France Info Météo, avec Verisure. En 2026, priorité à votre sécurité. Faites confiance à Verisure, alarme télésurveillée numéro 1 en France. Devis gratuit sur verisure.fr.
La météo à 5h28, c'est avec Christine Peña qui nous amène encore une belle perturbation pour aujourd'hui.
Elle s'appelle Ingrid, effectivement, elle a été nommée ainsi. Alors elle circule et s'est positionnée au large du Finistère et elle va circuler lentement en direction des îles britanniques. Nous serons dans son enroulement, donc nous aurons de bonnes pluies, du vent particulièrement fort sur les côtes bretonnes, de 100 à 120 km par heure. De nouvelles pluies, alors notamment pour la Bretagne, de nouveau, qui reste en vigilance orange, Finistère, Morbihan, Ille-et-Vilaine, pour ces fortes pluies, le risque de crue important et puis pour ces fortes vagues également qui débordent de façon importante le long du littoral breton surtout. Les pluies s'atténueront seulement en fin de journée. Elles passeront par Paris plutôt ce matin. Cet après-midi, les Parisiens seront au sec avec même quelques éclaircies qui pourraient se développer. Les éclaircies devraient revenir plus franchement et rapidement sur le sud-ouest. Les pluies progresseront vers l'est en perdant de la vigueur sur la partie nord. En Bretagne, on aura toujours un régime d'averse l'après-midi aussi. Et puis en revanche, sur le sud-est, alors Languedoc-Roussillon, région PACA, elles arriveront plus tôt à la mi-journée, se décaleront vers les Alpes. Elles seront soutenues par moments avec un risque d'orage et elles donneront pas mal de neige sur les Alpes, notamment dans la soirée là, et la nuit prochaine. Et puis un mot du week-end, un petit peu plus calme peut-être pour les régions du nord et du nord-est pour demain samedi, mais pas dans le sud. On a toujours des averses de prévues. Et puis dimanche, on voit arriver une nouvelle perturbation par la Manche. Enfin bref, que de réjouissance.
Merci beaucoup, merci vraiment, franchement. Merci. Le froid, la neige, les perturbations, la tempête, il ne manque rien. Merci Christine, c'est parfait. Il est 5h30 et vous écoutez France Info.
France Info. Jean-Christophe Martin.
Betarame va fermer, c'est ce qu'annonce le président de la Fédération nationale des organismes de gestion de l'enseignement catholique, dont l'antenne locale gère l'établissement au cœur d'un vaste scandale de violences physiques et sexuelles. Le projet, c'est de fermer le site actuel de Betarame, rebaptisé Beau-Rameau, et de déménager sur le site historique à 4 km de là, à Igon, qui accueille d'ailleurs déjà les primaires et les lycéens. Un énième feuilleton dans cette affaire. Les réactions sur place pour France Info avec Fanny Narvart.
Au café chez Francis, sur la place centrale de l'Estelle Betarame, la nouvelle de la fermeture ne suscite pas d'émoi particulier. Il faut passer à autre chose, confie-t-on. Dans le salon de coiffure d'à côté, on demande poliment aux journalistes de lâcher l'affaire. Un peu plus loin, devant l'établissement à la sortie des cours, les parents d'élèves, eux, sont un petit peu plus étonnés. Aucune communication officielle. Patricia, maman d'une élève de 6e, n'a eu vent que de rumeurs.
On a entendu plus ou moins... Il y a le principal du collège qui en a parlé à ma fille, voilà. Ça va faire, je sais pas, un mois, un peu plus.
Le président de la Fédération des organismes de gestion affirme que le collège va en fait rejoindre l'école et le lycée à Igon, à 4 km de Betarame. Pas pratique pour Marjorie, sa fille est en 6e.
Je l'ai mise ici parce qu'on habite à Saint-Pé, donc qui est à côté. Donc ça va être transféré à Igon, c'est pas du tout le même trajet. Il y a 10 minutes, un quart d'heure de plus, quoi.
Pour elle, fermer l'établissement à la fin de l'année est une erreur.
Je pense que les personnes qui ont été dans l'affaire sont plus là. Donc ça ne va pas changer grand-chose. Et de changer d'établissement, je ne vois pas en quoi ça va arranger la réputation du collège.
Un flou demeure quand même. Le secrétariat général de l'enseignement catholique conteste l'annonce, alors que le syndicat d'enseignants du privé, le SNEC CFTC, assure de son côté que le projet de déménagement est acté depuis plusieurs mois.
Fanny Narvart, d'ici Béarn Bigorre pour France Info. Deux enquêtes distinctes sont ouvertes à Bordeaux et Angers après le décès de deux nourrissons ayant consommé des laits infantiles rappelés par les fabricants. Enquête pour établir s'il y a un lien direct des laits infantiles des marques Pico, Gigos et Nidal fabriqués par Nestlé et Lactalis ont été retirés des rayons. Une toxine mise en cause peut provoquer des nausées et des vomissements mais aussi entraîner des complications plus graves. Le gouvernement Lecornu fait face à deux motions de censure ce matin, l'une déposée par le Rassemblement National, l'autre par la France Insoumise et les écologistes. Deux motions qui suivent l'utilisation de l'article 49.3 déclenché par le Premier ministre sur la partie recette du budget. Des motions qui n'ont que peu de chances d'aboutir et donc peu de chances que le gouvernement soit renversé. Soulagé mais pas dupe après le recul de Donald Trump sur le Groenland, les dirigeants européens appellent à la vigilance après le sommet consacré aux relations transatlantiques. Après une forme d'exercice d'escalade et de menaces, on est revenu à une situation beaucoup plus acceptable, mais il faut rester vigilant. C'est le résumé fait par Emmanuel Macron à son arrivée à Bruxelles. Il appelle aussi les États-Unis à respecter l'Europe.
Quand l'Europe est unie, forte, réagit vite, les choses rentrent dans l'ordre et dans le calme. Et moi, je me félicite qu'on a commencé la semaine avec une forme d'escalade, des menaces d'invasion et des menaces tarifaires. Et nous sommes revenus à une situation qui me paraît beaucoup plus acceptable, même si nous restons vigilants. Et donc, ce qu'il faut en conclure, c'est que quand l'Europe réagit de manière unie, en utilisant les instruments qu'elle a à sa disposition, et tandis qu'elle est menacée, elle peut se faire respecter. Et c'est une très bonne chose.
Emmanuel Macron à Bruxelles, au sommet consacré aux relations de l'Union européenne avec les États-Unis. Et puis parler avec Trump, ça n'est pas facile. C'est l'aveu à Davos du président ukrainien Volodymyr Zelensky après sa rencontre avec le président américain. Et par ailleurs, il a de façon inhabituelle critiqué vertement ses alliés européens en disant voir une Europe fragmentée et perdue face à Donald Trump et par ailleurs manquant de volonté politique face à Vladimir Poutine. Le tennis avec l'Open d'Australie et en ce moment le match entre Carlos Alcaraz et Corentin Moutet. Match du troisième tour entre le numéro 1 mondial espagnol et le français, 37e joueur mondial. Corentin Moutet qui a perdu le premier set 6-3 mais qui est en train de revenir dans le deuxième set puisqu'il mène actuellement 4 jeux à 2 face à Alcaraz. Il est 5h34.
France Info, 5h-6h, Jean-Christophe Martin.
Un cessez-le-feu est-il enfin en vue entre la Russie et l'Ukraine? L'émissaire de Donald Trump, Steve Witkoff, a rencontré Vladimir Poutine cette nuit après avoir d'abord rencontré les négociateurs ukrainiens à Davos, en Suisse, en marge du Forum économique mondial. À Davos, où Frédéric Seyss est pour France Info, hier après-midi, Frédéric, Volodymyr Zelensky et Donald Trump ont échangé, mais à l'abri des caméras.
Oui, les deux hommes, pas très bavards hein, d'ailleurs, à l'issue de cette rencontre. À la sortie, Donald Trump s'est contenté de quelques mots lâchés aux caméras. Il y a beaucoup de gens tués, c'est vraiment une guerre qui doit prendre fin, dit le président américain. Selon son émissaire Steve Witkoff, les négociations avancent. Il reste encore un point de désaccord entre la Russie et l'Ukraine, dit-il, un point qu'il n'a pas précisé, après avoir rencontré discrètement ici à Davos le négociateur en chef ukrainien. De son côté, Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, lui aussi laisse entendre que les discussions progressent entre l'Ukraine, les États-Unis et la Russie.
Nos équipes y travaillent ensemble presque tous les jours. Ce n'est pas simple. Les documents pour parvenir à la paix sont quasiment prêts. Ça, c'est important.
Et ce qui est prêt, selon Volodymyr Zelensky, ce sont les garanties de sécurité. Il n'a pas donné plus de détails. Il annonce aussi que les négociateurs doivent se retrouver aux Émirats Arabes Unis, négociation à trois entre Ukrainiens, Américains et Russes.
Alors après cette rencontre avec Donald Trump, Volodymyr Zelensky s'est lui exprimé assez longuement devant les décideurs économiques réunis à Davos et il a ciblé l'Europe.
Ah oui, Volodymyr Zelensky a adopté un ton vraiment inhabituellement virulent à l'encontre des Européens, presque réquisitoire.
Au lieu de devenir une véritable puissance mondiale, l'Europe demeure un magnifique mais fragmenté kaléidoscope de petites et moyennes puissances.
Une Europe trop lente, selon lui, les événements bougent plus vite que l'Europe, dit-il. Trop désunie, elle n'a même pas réussi à adopter une position commune sur l'initiative de Donald Trump pour le Moyen-Orient, le Conseil de la paix. Bref, une Europe qui parle, mais qui n'agit pas assez, selon Volodymyr Zelensky.
Les débats intellectuels ne peuvent à eux seuls arrêter les guerres. Il nous faut agir. L'ordre mondial naît de l'action. Sans action maintenant, il n'y aura plus aucun lendemain.
Voilà, Volodymyr Zelensky qui a relativement épargné Donald Trump. Il a concentré, vous l'avez compris, ses flèches sur les 27, une mise sous pression publique des dirigeants européens.
Frédéric Seyss à Davos pour France Info et justement pour le général Dominique Trinquant, ancien chef de la mission militaire française à l'ONU à New York, Volodymyr Zelensky n'a pas tort de secouer les Européens.
Il y a deux points. Le premier point, c'est qu'il sort d'une réunion avec M. Trump. Il ne s'agit bien sûr pas de critiquer M. Trump, Et on comprend la pression sous laquelle est M. Zelensky et l'Ukraine face au bombardement permanent des Russes sur les villes ukrainiennes. Et donc, il se décharge un petit peu sur les Européens. Il n'y a pas complètement tort. Les Européens se réveillent un petit peu. Il faut qu'ils maintiennent cette union qui a été soulignée par le président de la République. Et donc, il faut continuer à les secouer. Ça me paraît normal. Il ne faut pas que la pression retombe sur les Européens.
Est-ce qu'il y a des avancées selon vous? Visiblement, ils se seraient mis d'accord, les Américains, les Ukrainiens, sur les garanties de sécurité apportée à l'Ukraine. Les négociations achoppent visiblement encore sur la question des territoires. C'est le problème que nous n'avons pas encore résolu, a déclaré Volodymyr Zelensky.
Alors écoutez, franchement, on n'a pas avancé depuis 15 jours. C'est la coalition des volontaires qui s'est passée à Paris qui amenait les garanties de sécurité avec les Américains qui étaient présents. Simplement, ce dossier devait être présenté au président Trump et je pense que c'est ce dont ils ont parlé. Donc, il n'y a rien de nouveau sous le soleil, j'allais dire. En revanche, les incertitudes demeurent parce que tout ceci repose sur une seule chose, sur la volonté de Monsieur Poutine d'accepter un cessez-le-feu et de s'arrêter là où il est. Or, pour l'instant, la Russie refuse complètement cette position. Donc, on est très heureux d'être d'accord entre Européens, Ukrainiens et Américains, mais encore une fois, on l'était il y a 15 jours. Simplement, le président Trump l'a dit de vive voix, je pense à M. Zelensky, mais ceci ne présage absolument pas d'un accord des Russes.
Même si l'émissaire américain Steve Witkoff est arrivé à Moscou pour de nouveau pourparler sur l'Ukraine avec Vladimir Poutine, après justement ces discussions de Davos.
Écoutez, si vous êtes en mesure de me dire ce qui s'est passé lors de la dernière réunion de M. Witkoff avec M. Poutine qui a duré 5 heures et dont nous n'avons eu aucun élément, eh ben je m'attends à la même chose parce que probablement il a préparé du business entre des sociétés américaines et russes.
Le général Dominique Trinquant, il répondait sur France Info à Julien Langlais. Les Européens secoués donc par Volodymyr Zelensky. Christian Lequen est professeur de sciences politiques à Sciences Po Paris, spécialiste de la diplomatie. Et pour lui, le vrai problème, c'est que derrière une unité de façade, les Européens sont en fait divisés.
Vous avez deux positions dans l'Union européenne. Vous avez ceux qui ont décidé de contrer et de le faire de façon visible. C'est la position de la France, d'ailleurs c'est la position d'Emmanuel Macron. Mais vous avez aussi tous ceux qui sont un peu dans une position d'attentisme en disant oui, il faut pas braquer Washington, vous savez, quand même les États-Unis restent notre allié, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas la volonté de véritablement accepter qu'on est passé dans un autre monde avec Trump.
Là, vous parlez de qui? De l'Italie, par exemple, de Giorgia Meloni, peut-être même de l'Allemagne qui a retiré ses soldats du Groenland?
Je pense à l'Allemagne, mais je pense aussi à la plupart des pays d'Europe centrale qui sont très, très embêtés dans ce qu'il faut faire à l'égard des États-Unis parce qu'ils ont été tellement habitués à penser la relation transatlantique comme étant une relation de sécurité, qu'aujourd'hui, ils n'arrivent pas à prendre la mesure du fait qu'on est dans un changement d'époque, comme avait dit l'ancien chancelier allemand, M. Scholz. Et je pense que c'est cela qui énerve Zelensky. C'est-à-dire, ce que Zelensky voudrait, c'est qu'on prenne vraiment la mesure que la relation transatlantique ne peut plus être celle d'avant et que donc, il faut que les Européens soient unis et se manifestent en tant qu'Europe en dehors des États-Unis d'Amérique pour pouvoir essayer de régler le conflit.
Christian Lequen, professeur de sciences politiques à Sciences Po Paris, il répondait sur France Info à Jules Dequisse. Il est 5h42 en Bretagne, une décrue provisoire pour la Laïta à Quimperlé, le Finistère. En alerte orange au cru, comme une partie du Morbihan, mais la calmie ne devrait être que de courte durée, car de nouvelles pluies sont attendues aujourd'hui. Une dépression appelée Ingrid. Hier, l'eau avait envahi la basse ville de Quimperlé, où le pic de la crue a atteint 4,52 m, encore loin des 5,80 m de décembre 2000. À Quimper, pour France Info, Delphine Gauthier.
C'est l'un des endroits les plus appréciés des Quimperlois. L'Ambrasia, sa petite salle voûtée, surtout sa belle terrasse sur la Laïta. Aujourd'hui, tout est sous l'eau, constate Corentin Bougnec. Il a repris le café-restaurant il y a moins d'un an.
En mode 50, je dirais, ouais. Au moins.
Donc là, on voit effectivement la porte.
Ouais, une des portes d'entrée, quoi. C'est sous l'eau. Hein. Mais c'est juste l'autre côté où on a stocké beaucoup de choses, quoi. Tout la vaisselle. Enfin, je ne l'ai pas vu passer dans la rivière, donc normalement, ça a tenu. Mais on ne voit pas bien. Vu les bruits qu'on entend, c'est pas trop rassurant.
Pour le moment, impossible d'évaluer les dégâts, le bar est inaccessible, mais le restaurateur a bien sûr prévenu son assureur, car il ne s'attend pas à pouvoir rouvrir l'Ambrasia avant plusieurs semaines.
C'est surtout la perte d'exploitation, quoi. Les salariés, on a quand même 6 salariés. Bon, voilà, il faut que moi j'avance les salaires de tout le monde, donc ça a quand même un certain coût. Plus on ferme, plus c'est cher. On peut avoir de 50 000 euros, quoi. Si on ferme 3 mois entre tous les salaires, le loyer, ça va vite, quoi. De toute façon, on ne pouvait pas faire grand-chose de plus. Quand l'eau décide de rentrer, malheureusement, elle rentre.
Pourtant, Corentin et ses salariés ont tout fait pour protéger le bar avec 8 pompes à eau. Mais cette fois, il n'y avait rien à faire, constate Cindy.
La semaine dernière, Coco il a mis les pompes. Toute la nuit, on est resté, on a écopé. Il n'y a pas eu beaucoup d'eau. Mais là, cette semaine, on ne peut plus rien faire. Non, c'est comme ça. Fais avec. T'as pas le choix. C'est la nature, elle a le droit. Hein.
Prendre son mal en patience et attendre la décrue, il n'y a rien d'autre à faire de toute façon, conclut un brin fataliste son patron.
Delphine Gauthier à Quimper pour France Info. Et tout de suite, l'info en une minute.
France Info, 5h-6h.
L'essentiel de l'actualité à 5h44, c'est avec Diane Ferchit. Le premier titre, Diane, deux enquêtes ouvertes après des décès de nourrissons.
L'un à Angers fin décembre, l'autre près de Bordeaux début janvier. Tous deux avaient bu du lait en poudre Nestlé, du lait en poudre suspecté de contenir une toxine, mais pour l'heure aucun lien n'est établi. Les dirigeants européens appellent à la vigilance face à l'attitude de Donald Trump. Ils ont tenu cette nuit un sommet sur les relations avec les États-Unis. Nous sommes revenus à une situation beaucoup plus acceptable, estime Emmanuel Macron, qui appelle Washington à respecter l'Europe. Le ministre de l'Éducation nationale dit comprendre tout à fait la décision d'une fermeture éventuelle de l'établissement catholique Bétarame dans les Pyrénées-Atlantiques, alors que le président de l'organisme de gestion de l'enseignement catholique a fixé comme échéance l'été pour cette fermeture. Le secrétariat de l'enseignement catholique a lui plutôt parlé d'un déménagement. L'Open de tennis d'Australie et Carlos Alcaraz remporte le deuxième set face au Français Corentin Moutet, l'Espagnol qui mène 2-7-0, Fabrice Abgral.
Oui, 2-7-0 après 1h36, le premier set pour l'Espagnol 6-2, le deuxième 6-4, Corentin Moutet qui s'accroche, hein, il était mené 6-2, 3-0, il est revenu dans le match, il s'est un petit peu libéré, mais c'est quand même très compliqué pour le Français.
Fabrice Abgral, on continue à suivre avec vous cette rencontre entre Carlos Alcaraz et Corentin Moutet à l'Open de tennis d'Australie.
France Info.
Le gouvernement Le Cornu fait face à deux motions de censure ce matin. L'une déposée par le Rassemblement National, l'autre par la France Insoumise et les écologistes. Démarche lancée dans la foulée du 49-3 déclenchée par le Premier ministre sur la partie recettes de son budget. Bonjour Audrey Tison.
Bonjour à tous.
Des motions qui n'ont en fait que peu de chances ou peu de risques d'être adoptées.
288, c'est le nombre de députés qu'il faut réunir pour renverser un gouvernement. On ne parle pas de majorité absolue des élus présents, mais bien de la moitié du total des élus. Et ce chiffre n'est pas atteint si l'on en croit les positions affichées par les groupes. Chez Renaissance, le Modem, Horizon, on soutient officiellement le gouvernement, même si les concessions de Sébastien Lecornu au PS ont été vues comme d'énièmes couleuvres à avaler. Mais on voit mal des élus du Bloc central aller jusqu'à voter la censure. On va jouer notre rôle de force de stabilité, souffle un député.
Et comment ça se passe un peu plus à droite, cette fois du côté des Républicains ?
Ils n'ont pas l'intention non plus de voter la censure. Laurent Wauquiez juge ce budget imparfait, mais pour lui, ce ne serait pas sérieux de faire tomber un gouvernement vu le contexte international et de priver la France d'un budget. Il s'attend tout de même à ce que certaines personnalités de son groupe votent la censure. Michel Barnier, par exemple, dit s'interroger. En tout, il peut y en avoir jusqu'à 5, estime un bon connaisseur de la droite. Et c'est un peu la même configuration au Parti Socialiste, le camp qui a obtenu le plus de concessions dans ce budget. Nos conditions sont remplies, nous ne censurerons pas le gouvernement, annonce Olivier Faure. Mais des cadres du groupe s'attendent à quelques voix dissonantes. Ce serait très marginal, 4 ou 5 au plus, nous dit-on. En face, ceux qui vont voter la censure devraient donc être minoritaires. La France Insoumise, les écologistes, les communistes se sont associés pour déposer la même motion. Texte qui sera voté aussi par le Rassemblement National et l'Union des droites. Sur le papier, il manque 25 voix pour que le gouvernement soit renversé. Pas impossible, mais peu probable.
Audrey Tison, du service politique de France Info. Il est 5h47, le phénomène porte un nom dans les médias anglo-saxons, la job apocalypse à cause de l'intelligence artificielle. Des emplois supprimés, des humains remplacés par l'IA, c'est ce matin le choix de France Info, même si ce n'est pas encore partout une réalité. Mais les craintes sont renforcées par les annonces toutes récentes de Capgemini, le géant français de l'informatique qui envisage 2400 suppressions de postes. En septembre, c'était Microsoft qui confirmait la suppression de 10% de ses effectifs en France, et à chaque fois en toile de fond, il y a l'intelligence artificielle. Bonjour Benjamin Elie.
Bonjour.
Les géants de l'informatique ne sont pas les seuls concernés par les bouleversements de l'intelligence artificielle. D'autres métiers se retrouvent aujourd'hui fragilisés.
Oui, et puisque nous parlons d'intelligence artificielle...
Comment ça va ?
Mettons-la à contribution.
Si tu as des questions ou quoi que ce soit, n'hésite pas.
Est-ce que vous pourriez me faire une liste des métiers les plus menacés par l'intelligence artificielle, s'il vous plaît ?
Bien sûr, je peux te préparer ça. Les téléconseillers, les agents de centre d'appel, les traducteurs...
Écoutez, vous tombez bien parce que mon dernier client, avec uniquement de la traduction, m'a envoyé un mail la semaine dernière pour qu'on trouve des solutions pour, je cite, « optimiser les nouvelles technologies ensemble ».
Je suis là pour ça.
Caroline, 41 ans, traductrice, indépendante, son chiffre d'affaires a baissé de 12% entre 2024 et 2025.
Ça a vraiment transformé mon métier. L'été dernier, l'agence de traduction qui est mon principal client m'a informé que sur le gros compte sur lequel je travaille depuis 3 ans et demi, on allait passer justement en full post-édition, c'est-à-dire uniquement de la correction de traduction générée par l'IA, mais je suis payée moins.
Si vous aviez une question à poser à une intelligence artificielle, quelle serait cette question ?
Est-ce que tu penses que tu traduis efficacement dans le domaine marketing cosmétique ?
Oui, absolument. Je pense pouvoir traduire efficacement. Mais comme tout outil, il peut y avoir des erreurs ou des nuances à ajuster.
Non, elle n'est pas infaillible, loin de là. Donc Agnès Bousteau, je suis traductrice, présidente de la SFT, la Société Française des Traducteurs. Moi, je vois une baisse de 20% sur mon chiffre. Moins de contrats depuis 1 an et demi, 2 ans à peu près, on le sent. Des gens qui changent de métier aussi.
Dans tous ces métiers de la traduction, qui sont les plus menacés par l'intelligence artificielle ?
Je pense tout le monde. Dans les organismes internationaux aussi, puisqu'aujourd'hui, certains organismes, certains ministères aussi, étudient des solutions d'IA pour remplacer nos collègues. On a le ministère de la Justice notamment, qui est aujourd'hui en train d'étudier des solutions pour voir s'ils peuvent remplacer traducteurs et interprètes.
Sur ce point, le ministère de la Justice nous répond et confirme participer à une campagne de test d'un assistant IA pour ses agents pour un déploiement courant 2026. Selon le ministère, l'utilisation d'IA peut permettre d'effectuer par exemple des traductions écrites de documents non sensibles, mais ces outils, je cite, ne sauraient se substituer à l'intervention humaine dans le cadre d'une procédure pénale ou civile. Aucun déploiement opérationnel n'a été acté à ce stade pour la traduction écrite et l'interprétariat oral dans un contexte judiciaire, car le ministère insiste, ces pratiques sont encadrées par des règles strictes.
Et il y a un autre métier où l'IA prend de plus en plus de place, c'est celui de graphiste.
Oui, et l'IA, elle en dit quoi ?
Les graphistes font aussi partie des métiers qui peuvent être impactés par l'IA, notamment avec les outils de création automatisée.
Et pour certains, c'est leur vocation qui est ébranlée, avec parfois un chiffre d'affaires amputé de moitié. C'est le cas de Solène, 29 ans, graphiste indépendante.
Là, on est sur ma page Instagram. Et
Il y a vos travaux, là.
Voilà, c'est ça.
Qu'est-ce que ne peut pas faire l'IA dans ce que vous avez publié, là, par exemple ?
Alors oui, elle peut faire, mais derrière, il n'y aura pas cette même vision, il n'y aura pas ce grain que moi, j'apporte dans mes créations, ces textures. Contrairement à avant où je n'avais peu de refus de vie, j'ai vu une forte baisse et je me suis posé la question, est-ce que je ne devrais pas me reconvertir ? Est-ce que mon métier sert à quelque chose ? Ça reste des métiers créatifs, photographe, vidéaste, graphiste.
Mannequin.
On est tous dans le même package.
Oui, tout à fait. Certains métiers dans la mode, comme la conception de design ou la création de patron, peuvent aussi être influencés par l'IA.
Bonjour, je m'appelle Charlotte Lemay et je suis mannequin depuis 15 ans. Très récemment, j'ai été appelée pour un shooting photo par mon agence et le matin même, on me dit « Écoute Charlotte, il n'y aura pas de maquillage, pas de coiffure et on va couper ton visage. On va le remplacer par un visage généré à l'intelligence artificielle. » Et en fait, la seule chose qu'ils vont garder, c'est la silhouette avec les vêtements. L'idée pour eux, c'est de ne pas payer de droits à l'image parce que nous, c'est notre principale source de revenus. Par rapport au moment où j'ai commencé, je pense que les tarifs sont divisés par 3, 4, 5 facilement. Et surtout, ça va pousser encore plus loin les standards de beauté qui sont déjà Terrible. On va se comparer à des femmes qui n'existent pas et qui sont inatteignables.
Selon la commission de l'intelligence artificielle qui a remis un rapport en 2024 au président de la République, les emplois directement remplaçables par l'IA...
Je reste toujours disponible pour ça.
...représentent 5% des emplois d'un pays comme la France.
Avec plaisir, je suis ravi d'avoir pu t'aider.
D'accord.
Bonne journée à toi.
Le choix de France Info signé ce matin... Benjamin Ely à retrouver en intégralité sur franceinfo.fr à 5h53. Tout de suite, le réveil de l'écho avec Emmanuel Cugny.
Le réveil de l'écho avec Banque Populaire, engagée aux côtés de ceux qui entreprennent. Banque Populaire, la réussite est en vous.
Bonjour Emmanuel.
Bonjour à tous.
Toute l'actualité économique en trois titres. Les grands ports de commerce français tournent à plein régime.
Oui, Rouen, Le Havre et Marseille-Fos ont enregistré l'année dernière un trafic record en hausse respectivement de 2 et 5%. Alors des progressions d'apparence modeste, mais significatives à l'heure des taxes douanières imposées par l'administration américaine censée pénaliser le commerce mondial. En réalité, la perspective de ces droits de douane prohibitifs sur les exportations vers les États-Unis ont poussé les entreprises américaines à garnir leurs stocks avant de subir les surtaxes. Résultat, un trafic accru pour envoyer des marchandises de l'Europe vers les États-Unis via nos ports de commerce. 85 millions de tonnes de marchandises ont ainsi été expédiées depuis Haropaport, qui réunit Rouen et Le Havre. 74 millions de tonnes ont transité via Marseille.
Au Danemark, on pense très sérieusement à en finir avec l'interdiction du nucléaire.
Oui, le pays envisage de construire de petits réacteurs nucléaires pour répondre à ses besoins énergétiques. Pour cela, Copenhague va lever le moratoire sur l'énergie nucléaire en place depuis 1985. Les réacteurs envisagés à la construction ont une capacité de production électrique pouvant atteindre 300 mégawatts par unité. C'est environ un tiers de la capacité de production d'un réacteur nucléaire traditionnel. Des réacteurs relativement simples à construire, ce qui les rend plus abordables que les grands réacteur conventionnel.
Emmanuel Cugny, on vous retrouve dans une demi-heure sur France Info comme chaque matin pour le Brief Éco.
En plein débat sur la souveraineté européenne pour la fabrication de semi-conducteurs pour notre industrie informatique, une nouvelle usine de terres rares va voir le jour dans le sud-ouest de la France, précisément sur le bassin de Lac près de Pau. Portée par un investisseur américain, l'usine vient se greffer au projet d'une start-up lyonnaise qui devrait employer près d'une centaine de personnes d'ici début 2027.
Le Brief Éco, à tout à l'heure, dans une demi-heure, Emmanuel. Tout de suite, à 6h05, la playlist du jour avec Diane Ferschit. Et il va falloir, Diane, s'armer de patience demain.
Oui, si vous voulez obtenir des places pour le concert de vos idoles, les 7 membres du groupe de K-pop, la pop coréenne BTS, c'est demain, à 15h, que la vente officielle des billets va commencer pour leurs 2 concerts au Stade de France, les 17 et 18 juillet. Et après 3 ans d'absence pour cause de service militaire obligatoire en Corée du Sud, les fans attendent impatiemment cette tournée mondiale. Alors certains ont déjà tenté leur chance lors de la pré-vente jeudi. Pré-vente avec un système un peu particulier, même si c'est très courant pour les stars de K-pop. Alors pour avoir accès à cette pré-vente, les fans ont dû déjà débourser 20 euros. Mais après, c'était direction la file d'attente numérique avec un nombre limité de pré-ventes. Et même si les 20 euros donnent accès à du contenu sur BTS pour un an, pas de remboursement si vous n'avez pas réussi à avoir de place. Il faudra donc retenter votre chance demain pour des billets à partir de 78 euros, comptez jusqu'à 260 euros pour le carré or. BTS qui débutera cette tournée monumentale en avril prochain en Corée du Sud pour la terminer un an plus tard aux Philippines. 79 dates au total, 4,5 millions de spectateurs attendus dans le monde. Un enjeu énorme pour BTS qui va donc renouer avec le succès. Sachez, Jean-Christophe, qu'avant l'interruption de leur carrière, à l'apogée de leur gloire, le groupe représentait tout de même 0,2% du PIB sud-coréen. Let's go.
La playlist du jour signée Diane Ferchit avec le retour de BTS. Dans un instant, la météo et un nouveau journal.
France Info Météo avec l'alarme Vérissure. Détectez et mettez en fuite les intrus dès le jardin grâce au nouveau détecteur extérieur vidéo. Rendez-vous vite sur Vérissure.fr.
La météo à 5h58 avec Christine Peña. On surveille à nouveau ce week-end, Christine, la pluie et le vent.
Et oui, ce vendredi, dès ce vendredi, nous avons le passage d'Ingrid. C'est une belle dépression qui apportera de la pluie, parfois soutenue, du vent tempétueux, notamment sur les côtes bretonnes, de la neige en quantité sur les Alpes ce soir et pour la nuit prochaine. Et puis, elle s'éloignera vers les îles britanniques. Un autre système dépressionnaire samedi prendra cette fois place en Méditerranée. Prendra le relais donc et devrait donner de la pluie mais aussi de la neige à très basse altitude sur le Massif central et les Alpes de nouveau dans la nuit de samedi à dimanche surtout. Les Alpes vont vraiment faire le plein de poudreuse dimanche. Une nouvelle perturbation arrivera par la Manche et pour la semaine prochaine, eh bien, le programme des réjouissances est assez chargé, toujours agité. On surveillera de nouveau les pluies et le vent et avec le froid qui s'installe là peu à peu, il y a un risque de neige jusqu'en pleine au nord de la Seine, en tout cas, et sur les régions du nord-est, entre mardi et jeudi, on verra ça. Oui, on perd quelques degrés, alors surtout ce matin, 2-3 degrés, pas grand-chose. Cet après-midi, c'est un peu comme hier. C'est ce week-end que les températures refroidissent, alors surtout le matin, on aura des gelées peut-être un petit peu plus étendues. Cet après-midi, on ira de 3 à Strasbourg, 8 à Nancy, à Lille, 10 à Paris, 11 au Mans, comme à Bordeaux et Nîmes, 13 du côté de Marseille et 15 du côté de Bastia.
Christine Peña, vous écoutez France Info, il est presque 6h et c'est Adrien Beck qui vous accompagne pour 3 nouvelles heures d'info. Bonjour Adrien.
Bonjour Jean-Christophe, bonjour à tous, ravi de vous retrouver en ce vendredi matin. À mes côtés Christine Peña qu'on vient d'entendre. Bonjour Christine, bonjour. Qui nous annonce le retour de l'hiver, ça y est. Je salue également Diane Ferchit, bonjour Diane.
Bonjour à tous.
Et bonjour Solène Cresson.
Bonjour.
On vous retrouve pour le journal dans quelques secondes. Tiens, je vous donne avant cela un rendez-vous. Vous avez peut-être en tête que la France est championne du monde des parfums, des crèmes de beauté. Alors c'est vrai, mais figurez-vous que Donald Trump, encore lui, fait souffrir le secteur en raison des droits de douane aux États-Unis. Pour la première fois depuis 20 ans, les ventes à l'étranger